Vous écoutez France Culture. Bonsoir à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, une émission préparée par Élodie Cousin, Fanny Richet, Mathilde Barbier et Nathan Marono, réalisée par Liscom, accompagnée ce soir de Théo Gomard. Il fait 200 mètres de long pour 32 mètres de large, capacité près de 20 000 tonnes à pleine charge. Il peut projeter des forces par la mer ou par les airs, conçu pour abriter au moins 500 marins et 16 hélicoptères. Lourd, très lourd Mistral, le couteau suisse de la marine française devenu son boulet russe. Les faits remontent à 2011, Paris et Moscou signent un contrat à plus d'un milliard d'euros. La guerre froide est terminée depuis longtemps, il faut repartir sur de bonnes bases, des bases solides, solides comme deux Mistral. À l'époque, on dit que c'est le début de l'histoire, le premier pas d'une longue coopération franco-russe. 3 ans, l'annexion de la Crimée et le crash de la Malaysia Airlines plus tard, embarras dans les milieux politiques et militaires français. Et si le bâtiment devenait le cheval de Troie de l'armée russe? Et si nous étions en train de lui fournir de quoi attaquer un voisin, un allié? Trop tard pour le premier Mistral, le Vladivostok, sur le point d'être livré. Le Sébastopol, en revanche, attend toujours de connaître son sort dans les chantiers navals de Saint-Nazaire. Mais les états d'âme ne sont pas prévus dans le contrat et la Russie n'entend pas se laisser faire. Soit vous respectez votre engagement, soit vous rendez l'argent, disent en substance les autorités russes. Quant à la France, elle est un peu gênée aux entournures, pressée par ses voisins d'annuler la transaction. Alors a-t-on fait une grosse erreur en 2011? Peut-on revenir en arrière et le doit-on? Fallait-il vendre le Mistral à la Russie? C'est notre sujet du jour. Trois invités pour en discuter et en débattre. Isabelle Facon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de recherche pour la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste des politiques de sécurité et de défense russe. Avec vous en studio, Isabelle Lasserre, bonsoir.
Bonsoir.
Rédactrice en chef adjointe au service étranger au journal Le Figaro. Vous êtes passionnée pour cette affaire des deux Mistral, signée de nombreux articles sur la question. Et vous êtes aussi, en ce mois d'août, la productrice de l'émission Une semaine dans le monde sur France Culture. Avec vous en studio également, Thomas Gomard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du développement stratégique de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors merci à vous trois d'être avec nous. Peut-être faut-il commencer par rappeler ce qu'est le Mistral. Un officiel russe piqué au vif par l'éventualité que le contrat soit annulé l'a décrit comme une simple barge avec un moteur et un pont pour des hélicoptères et des chars. Vexé de mauvaise foi, le militaire, Isabelle Lasserre?
Non, le Mistral, c'est... Oui, on a coutume de dire ça à Paris. On dit aussi que c'est une espèce de coque vide qui n'est pas armée. C'est pas tout à fait vrai parce que, d'abord, c'est un bâtiment de projection et de commandement. Donc, il y a les deux particularités du Mistral dans ces deux mots. C'est-à-dire qu'on peut projeter de la puissance, projeter des troupes, enfin des troupes, en tout cas des hélicoptères et des militaires, et on peut commander à partir de ce bateau. Donc c'est beaucoup plus qu'une coque non armée. Par ailleurs, dans ce bateau, même s'il y en a moins qu'il n'était prévu initialement, il y a quand même des technologies assez modernes. Et ça fait un bateau quand même que les Russes ne possèdent pas et qui fait franchir un saut qualitatif à la marine russe.
Alors Isabelle Facon, vous qui êtes spécialiste des stratégies de défense russe, est-ce que vous confirmez que le Mistral, la Russie en avait besoin, en tout cas si on se place de son côté, de son point de vue?
Oui, alors c'est vrai que c'est plus une question, plus qu'une question de transfert de technologie, c'est une question d'amélioration qualitative des compétences de la marine russe, et ça colle assez bien avec tout un volet du projet militaire de Vladimir Poutine, qui depuis quelques années essaye de réaffirmer la Russie sur la scène internationale. Il considère que le facteur militaire est un élément majeur dans cette perspective. Et si la Russie a maintenant une meilleure capacité pour la gestion de crise et d'autres types d'opérations, comme on a pu le voir récemment, dans son environnement proche, qui lui manque, c'est beaucoup une capacité à se montrer dans, disons, l'océan mondial, dans le grand monde. On a vu qu'ils ont fait des efforts, les Russes, à ce niveau-là, par exemple en participant aux opérations dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe d'Aden. On voit des patrouilles de la marine russe se multiplier un petit peu partout dans le monde. Et je pense que de ce point de vue-là, le BPC Mistral apporte effectivement un plus à l'armée russe en lui, permettant théoriquement de projeter davantage sa puissance militaire sur la scène internationale. Alors, de quelle manière ça, il y a plusieurs possibilités, et on le voit encore aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine. Mais dans le contexte où ça avait été négocié, c'est vrai que les Russes mettaient beaucoup en avant l'idée qu'ainsi, ils pourraient participer davantage à la gestion de crise, aux opérations internationales de maintien de paix. Ça participait aussi de cette affirmation d'un projet international russe plus musclé, en fait.
Le Mistral a également été cité parfois par des officiels russes pour des projets plus belliqueux. Alors, c'était de la rhétorique, peut-être, Isabelle Lasserre.
Ah ben c'était après la guerre de Géorgie, au moment où Nicolas Sarkozy négociait le contrat Mistral avec Vladimir Poutine. Le chef d'état-major de la marine, l'amiral Viskovsky, avait dit à l'époque, a eu cette phrase en disant que si, au moment de la guerre de Géorgie, il avait eu un tel bâtiment, les opérations auraient pu être réglées en 40 minutes au lieu de
26 heures.
Enfin, il y a deux versions en fait de la citation de l'amiral russe, ce qui veut quand même dire pas mal de choses.
Et d'entraîner tout un débat d'ailleurs auprès des militaires et des milieux militaro-stratégiques. Oui, mais alors depuis quel port et puis sous quel délai d'appareillage, quel régime d'alerte, Thomas Gomard, si on revient au contexte dans lequel ce contrat a été signé. Donc on est en 2011. À l'époque, c'est Nicolas Sarkozy côté français qui se charge des formalités. À l'époque, voilà. Quels sont les voyants au vert? Qu'est-ce qui permet à la France de dire bah oui, la Russie est notre allié, la guerre froide est finie depuis longtemps, et puis voilà, il faut tourner une page.
Je crois que ce n'est pas tellement 2011 au point de départ, c'est vraiment 2008, comme Isabelle Lasserre vient de le rappeler. C'est-à-dire que le premier contact, c'est le salon Euronaval à l'automne 2008, où la marine russe, effectivement, exprime son volonté d'acquérir le BPC.
Et BPC, ensuite, bâtiment
de projection et de commandement. Et ensuite, effectivement, on rentre dans un processus assez complexe parce qu'il y a eu un débat très vif au sein des autorités françaises entre une école qui, non seulement, qui était plutôt représentée par les politiques, considérait que le BPC était une manière de franchir un seuil, de tourner la page de la guerre froide, et un courant beaucoup plus critique, plus animé par les marins français d'ailleurs, qui voyaient là, au fond, un transfert de technologie, parce que c'est évidemment un système d'armes offensif, contrairement effectivement à ce qui a pu être dit ces derniers mois à Paris.
Donc on disait on vend les bijoux de famille.
Pas jusque-là, si vous voulez, mais ce qui est certain, c'est que ça permettrait à la Russie d'avoir une suprématie navale en mer Noire, en Baltique, et éventuellement aussi dans le Pacifique, parce que les pays qui ont le plus réagi, ce sont les pays baltes, ce sont les pays littoraux de la mer Noire, et c'est le Japon, qui s'inquiète ouvertement aussi d'une arrivée de ce type de bâtiment sur le Pacifique. Alors on n'y est pas encore, hein, c'est très progressif, mais il est certain que ça changera les équilibres des marines qui seront confrontés au BPC.
Alors les pays baltes à l'époque et la Pologne implorent la France à l'époque de renoncer à ce contrat, et notamment en s'appuyant sur l'argument que la nouvelle doctrine militaire russe pour eux, est un danger pour eux. Qu'est-ce qu'elle dit cette nouvelle doctrine militaire russe, Isabelle Facon?
Bon, la doctrine militaire russe disait beaucoup de choses, donc ça va être difficile de synthétiser, mais
dans ce que les pays baltes mettaient en avant.
Ce que les États baltes et d'autres ont mis en avant, c'est que dans cette doctrine, dans les aspects politiques, les Russes mettent en avant à nouveau le fait que l'OTAN reste pour la Russie une source, non pas de menace, mais en tout cas le danger principal, fait partie de la liste des dangers principaux désignés par cette menace. Et puis par ailleurs, il y avait aussi des éléments sur le nucléaire qui posaient problème non seulement aux États baltes, mais aussi aux États-Unis, qui semblaient traduire une confirmation d'un abaissement du seuil d'emploi du nucléaire, donc avec des scénarios dont les États baltes et la Pologne avaient fait les frais dans différents exercices intitulés West 2009 notamment, et on pourrait en citer plusieurs, dans lesquels notamment une fois la Pologne était ciblée comme pouvant faire l'objet de possibles frappes nucléaires. Donc tous ces éléments-là ont contribué bien sûr à renforcer les craintes des pays d'Europe centrale et orientale, mais évidemment, au sein de l'Europe, vous avez d'autres pays qui ont une vision un petit peu plus dépassionnée de la relation avec la Russie. Et je pense que la France, dans sa négociation sur le Mistral, se situait aussi dans cette perspective du fait que la Russie n'est plus une menace pour l'Europe.
Thomas Gomard.
Oui, parce que la France, en fait, le fait d'arme principal de la diplomatie de Nicolas Sarkozy, ça a été sa médiation de 2008. Et au fond, ce qui est aussi reproché à Paris avec la discussion sur le Mistral, c'est que le médiateur va armer un des belligérants. Et donc, les réactions suscitées en Géorgie sont extrêmement vives. La deuxième chose, je pense, importante à souligner, c'est qu'on a aussi une Russie qui, effectivement, modifie sa doctrine militaire, mais surtout est engagée dans une relance de sa dépense militaire tout à fait significative depuis le début des années 2000. Et donc, est dans une vague d'acquisition de systèmes d'armes complexes et également de mise à niveau de ses forces armées, dont le décalage par rapport à des puissances comme la France ou la Grande-Bretagne était apparu à la faveur de la crise géorgienne.
Mais en Russie, Isabelle Lasserre, ça n'avait dérangé personne que le pays acquiert ses navires de guerre à l'étranger plutôt que de les fabriquer lui-même. Est-ce qu'il y avait un débat en France, faut-il ou pas vendre le Mistral à la Russie? Mais est-ce qu'en Russie, il y avait le débat s'il fallait l'acheter?
Mais alors, il faut, je crois que c'était très compliqué, c'est assez compliqué pour les Russes de fabriquer un Mistral, hein, un bâtiment de projection et commandement de cette qualité et de cette performance-là. Ils ne savent pas faire. Et le jour où ils réussiront à le faire, il leur faudra sans doute 10 ans pour le réaliser, alors que là, ils avaient le produit tout livré en 2 ans. Mais il y a juste quand même une autre chose à souligner, c'est que la vente du Mistral à la Russie a des raisons géopolitiques, de rapprochement avec la Russie, le reset d'Obama, etc. Mais pour les Français, il y a une autre raison quand même qui sont des raisons économiques. C'est-à-dire qu'à l'époque, les chantiers navals de Saint-Nazaire sont complètement dans la panade, si je puis m'exprimer ainsi. Ils n'ont absolument aucun contrat à venir. Et la question d'une fermeture à moyen terme de ces chantiers navals se pose vraiment. Et pour Nicolas Sarkozy, c'est une vente qui permet, selon lui, de sauver les chantiers navals. La situation est très différente aujourd'hui parce qu'ils ont de nouveaux contrats qui leur permettent de tenir de longues années. Et l'autre chose, c'est une raison économique toute simple, c'est que la France est un des grands pays exportateurs d'armes. Et en général, quand on exporte des armes, on ne les exporte pas forcément à ses amis occidentaux, qui pacifistes, qui ont les mêmes visions du monde que nous.
Et d'ailleurs, pour la France, c'était le premier contrat du Mistral à l'exportation, si je ne me trompe.
Oui.
Oui, Isabelle Facon.
Oui, juste revenir sur le chiffre. Hein, en fait, et on en parlait déjà en 2008-2009, le chiffre du programme d'armement pour 2011-2020, c'est 600 milliards de dollars, un petit peu plus. Et donc ça, dans un contexte où le ministre de la Défense russe de l'époque disait, maintenant, puisqu'on a des gros blocages dans notre industrie d'armement, nous allons procéder à des acquisitions à l'étranger. Et dans ce cadre là, les pays occidentaux avaient l'air de faire figure de potentiels fournisseurs intéressants, le marché de l'armement russe apparaissait tout d'un coup comme un marché potentiellement très, très juteux. Donc il y a aussi ce contexte, puisqu'on parlait des arguments économiques, qu'il faut rappeler 600 milliards de dollars en dépenses de nouveaux équipements entre 2011 et 2020. C'est quand même énorme.
C'était aussi la première fois, Thomas Gomard, qu'un pays membre de l'OTAN prenait la décision unilatérale de vendre du matériel offensif à la Russie. Rien ne l'interdisait plus, a priori, dans les règles de l'OTAN.
Dans les règles de l'OTAN, il y avait une sorte de tabou politique à franchir ce pas. Ensuite, il y avait déjà des accords de coopération militaire qui existaient, notamment entre l'Allemagne et la Russie, et même entre la Grande-Bretagne et la Russie. Alors pour des choses moins visibles et moins létales, je dirais. Mais je dirais qu'effectivement, le marché russe commençait à s'ouvrir. En fait, le débat politique, à mon avis, s'est cristallisé. C'est ce qui est en train de rejouer aujourd'hui sur la ligne suivante, c'est-à-dire que à la faveur du Mistral, il y a un courant qui s'exprimait, qui s'est dit qu'il faut aller plus loin avec la Russie et faire du partage de souveraineté. Bon. Et là, on se rend compte effectivement qu'avec le changement de comportement, l'agressivité nouvelle du régime russe depuis l'annexion de la Crimée, c'est une ligne beaucoup plus difficile à tenir. Mais le Mistral a au fond ouvert une sorte à lever, si vous voulez, un verrou symbolique important et a encouragé des milieux à vouloir dire il faut aller faire du partage de souveraineté et donc sceller l'amitié russe par du matériel militaire.
Mais alors, vous parlez d'une agressivité nouvelle, ceci dit, l'annexion par exemple de la Crimée par la Russie, est-ce qu'elle change la nature du régime de Poutine? Est-ce que, voilà, on a titré l'émission « Fallait-il vendre le Mistral à la Russie ?» et non « Faut-il ?» aussi parce qu'on se demande si déjà à l'époque, on ne savait pas que la Russie prenait souvent des libertés avec le droit international.
Bah pour les autorités françaises, si vous voulez, très clairement non. C'est-à-dire qu'en 2008, le Premier ministre de l'époque, François Fillon, explique que la Russie est devenue une démocratie. La 2010, c'est l'année France-Russie. Donc il y a une sorte, si vous voulez, on est dans l'affaire, dans l'après-Géorgie. Il y a aussi l'attitude de Medvedev, qui est considéré comme plus ouvert que ne l'est et ne le sera Poutine. Et ensuite, pour répondre précisément à votre question, je pense que c'est très dialectique. C'est-à-dire qu'il y a eu un durcissement de la Russie qui s'exprime avec l'Ukraine. Et ce qui est en train de se passer en Ukraine est aussi fait un effet revers, si j'ose dire, sur le durcissement qu'on observe aujourd'hui à Moscou. Donc c'est très facile à posteriori de dire on n'aurait pas dû faire, etc. En même temps, l'annexion de la Crimée, je dirais, avant le mois de février, était capable de dire que ça se ferait de cette manière. On était assez peu nombreux, je pense.
Isabelle Facon, vous vouliez réagir?
Oui, mais tout à fait. Le contexte était que le président Medvedev avait suscité beaucoup d'espoir, finalement, dans la communauté occidentale. Hein, à l'époque, certains en parlaient même comme d'un nouveau Gorbatchev. Et a priori, la situation en Géorgie n'avait pas beaucoup changé cet état d'esprit. Il y avait un espoir pour que peut-être Poutine ne reviendrait pas au pouvoir après l'époque Medvedev. Donc c'était aussi un élément important du contexte, plus le redémarrage des relations avec les États-Unis. Et c'était un des arguments qu'avait mis en avant Nicolas Sarkozy, qui disait on ne peut pas demander à la Russie de coopérer sur la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre la piraterie maritime, sur la prolifération nucléaire, etc. Et en même temps, ne pas la traiter comme un partenaire. Alors bien évidemment, c'était aussi un habillage politique pour justifier une décision qui posait pas mal de problèmes à pas mal d'alliés et de partenaires, y compris dans le débat interne français. Mais je pense que ça fait aussi partie de la perception des choses de beaucoup de gens en France, et notamment dans la classe politique, qui estime que finalement la sécurité européenne n'est pas complète si la Russie n'est pas solidement amarrée. Et je pense que ça, par contre, ça fait encore partie du débat aujourd'hui.
Alors la question qui se pose et sur laquelle peut-être tous les trois vous ne serez pas d'accord, en tout cas sans doute aurez-vous des nuances dans vos éléments de réponse, mais quel usage peut faire la Russie de ce Mistral, puisque c'est tout l'enjeu de cette vente ou de cette non-vente, Isabelle Lasserre?
Alors, juste une, moi, je pense qu'il ne fallait pas vendre le Mistral à la Russie. Et maintenant qu'on l'a vendu, il n'y a plus de bonne solution. Et c'est vraiment très, très compliqué. Mais moi, je vois la guerre de 2008 comme une première étape par rapport à ce qui s'est passé en Géorgie, comme une première étape par rapport à ce qui s'est passé maintenant. Et quant à l'histoire de Medvedev, moi, j'ai quand même beaucoup entendu les spécialistes dont vous faites partie, enfin tout le monde, personne n'était dupe de cette histoire de Medvedev quand même. Les hommes politiques s'emparaient de Français ou occidentaux, s'emparaient de la question en disant il va remplacer Poutine, ça y est, c'est un régime normal, etc. Vous savez tous bien quand même, personne n'était dupe, on savait que c'était...
L'homme de paille.
En tout cas, il y avait un doute suffisamment fort pour qu'on puisse se dire, est-ce qu'on prend le risque de vendre un tel bateau de guerre? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il peut en faire aujourd'hui? Il y en a un qui s'appelle le Vladivostok, il va aller à Vladivostok. Normalement, les deux devaient aller à Vladivostok, le deuxième s'appelle Sébastopol. Donc c'est quand même le port de la mer Noire en Crimée. Il peut très bien, effectivement, être envoyé en mer Noire et donc menacer... les voisins de la Russie. On peut aussi, et c'est là où on est vraiment complètement en porte-à-faux, c'est qu'on peut très bien imaginer que la Russie utilise le Mistral en Méditerranée. Les Russes ont un port en Syrie qui s'appelle Tartous, qui compte vraiment pour eux. Et on se retrouverait dans une situation... Ils soutiennent Bachar al-Assad, le régime de Bachar al-Assad, quand même depuis le début de la guerre en Syrie. Et on risque de se retrouver dans une situation où on aura vendu un bateau de guerre absolument extraordinaire qui sera en Méditerranée pour soutenir un régime dont on demande l'effondrement et le départ de son président.
Ça, c'est de la politique fiction, a priori.
Bah, en fait, quand on vend des armes aussi sophistiquées, on est toujours aussi obligé de se poser la question du coup d'après et de savoir l'emploi qui va leur être destiné.
Alors Thomas Gomard, vous allez pouvoir répondre à l'interpellation d'Isabelle Lasserre. Est-ce que vous, en 2011 déjà, vous disiez, mais peut-être un jour, l'utilisation de ce Mistral pourra se retourner contre nos alliés?
Oui, mais ça, bien sûr.
Vous n'êtes pas de ceux qui regrettaient la vente?
Ah bah je formulerai les choses très différemment sur la vente, mais le point soulevé par Isabelle Lasserre est effectivement très intéressant, c'est-à-dire à partir de quand on considère que la Russie a changé de trajectoire ? Et est-ce que, au fond, ce qui s'est passé en Géorgie en 2008 était annonciateur de la suite ? Ou est-ce qu'on considère qu'il y a eu des occasions manquées de part et d'autre ? Et ça, c'est vrai que c'est un débat qui n'est pas tranché entre nous. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il y a effectivement un tournant du régime russe en 2007 avec le discours de Munich, une agressivité nouvelle, mais qu'en même temps, il y a eu très probablement des occasions manquées côté occidental. Il y a eu l'initiative de sécurité de Medvedev qui n'a pas rencontré l'écho qu'on aurait pu espérer. Il y a eu des signaux effectivement avec le reset américain. Il y avait une volonté.
Le reset américain, c'est Barack Obama qui dit il faut réchauffer les relations.
Il y avait un certain nombre de sujets sur lesquels Russes et Occidentaux pouvaient s'entendre, en particulier sur l'Iran. Donc je dirais, après, c'est vraiment une question d'interprétation et de choix politique. Et c'est vrai qu'il y a un débat. L'école que l'on choisit, si on considère que Poutine dès 2000 est agressif ou si on considère qu'il est devenu agressif, on n'a pas le même positionnement sur l'affaire du Mistral. Peut-être laisser répondre Isabelle Facon et vous ensuite sur la vente proprement dite.
Et alors, quelle école avez-vous choisi, vous, Isabelle Facon?
Moi, je n'ai pas encore choisi mon école non plus, mais je pense que la Russie, dans les deux cas, se situe dans une ligne stratégique qui est de réaffirmer sa prééminence, la prééminence de ses intérêts dans l'ancien espace soviétique, ça c'est tout à fait clair. Que dans les deux cas, elle a plutôt été dans une logique de réaction par rapport à des événements qui servaient potentiellement ses intérêts, que ce soit en Géorgie ou en Ukraine. Après, sur l'école, je n'irai pas jusque-là me positionner compte tenu de la suite. Mais qu'est-ce que peut faire la Russie des Mistral ? Théoriquement, les deux sont censés, si elle obtient les deux, sont censés aller dans la flotte du Pacifique, ce qui serait aussi logique par rapport à plusieurs évolutions stratégiques, notamment le pivot américain vers l'Asie-Pacifique, le pivot russe aussi vers l'Asie qui avait commencé bien avant la crise en Ukraine avec une Russie qui considère à juste titre, à mon avis, qu'elle a besoin d'être plus présente dans cette partie du monde. Mais il est vrai qu'en ce moment, on a pas mal de déclarations qui montrent qu'on n'en sait pas grand-chose et malheureusement, des commentateurs dont on sait qu'ils sont proches du pouvoir qui font des déclarations, alors peut-être par flagornerie, mais je suppose que ces déclarations sont entendues un petit peu partout, notamment en Europe centrale et orientale, qui disent que en cas, par exemple, de mise en question des intérêts des populations russes en Estonie, le BPC pourrait être utile. Donc ça n'aide pas, je pense, la France dans ce cas de figure.
C'est notamment les craintes de tous les Cassandres qui décryptent les discours officiels de la Russie aujourd'hui, discours qui de plus en plus parlent du monde russe, de ce monde russe qu'il faut préserver et sauver, et qui en fait parlent de ces zones où vivent des Russes. Et voilà, ces Cassandres-là se demandent si la Russie veut modifier les frontières européennes, Isabelle Lasserre.
Oui, les frontières, elle les a un tout petit peu en partie modifiées, là déjà en annexant la Crimée. Hein,
sans beaucoup de réactions par ailleurs, pour l'instant, internationales.
Donc il y a eu, le droit international a quand même déjà été sacrément malmené au printemps. Il est difficile quand même d'imaginer que Vladimir Poutine attaque les pays baltes demain ou la Pologne. Enfin, effectivement, je sais que ces risques sont soulignés par certains responsables politiques ou experts de ces pays-là qui ont une vision quand même très différente de la Russie parce que c'est simplement une question géographique. La Russie, c'est l'ours agressif qui est leur voisin immédiat. Nous, la France, l'Italie, l'Espagne, on est plutôt focalisé sur une menace qui vient du Sud, c'est la menace djihadiste. Donc l'Europe est vraiment coupée en deux sur cette histoire. Mais je ne vois pas la Russie attaquer demain les frontières européennes, ou alors Poutine serait devenu fou, et je n'en vois pas les prémices encore. Thomas Gomard sera peut-être...
Thomas Gomard, vous lui voyez les prémices?
Moi, je pense que tout est possible aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans une situation hautement inflammable, qui ne cesse de se dégrader. On y accorde de l'intérêt, je dirais, de manière cyclique dans les capitales européennes. Mais précisément de la même manière qu'en 2011, on considérait qu'il y avait une possibilité peut-être d'ouvrir un dialogue avec la Russie, il y avait également des travaux qui étaient faits visant à se prémunir contre une sorte de résurgence militaire de la Russie. Et je pense qu'en l'espèce, il faut rester extrêmement prudent, extrêmement vigilant, parce qu'il y a à la fois fois le projet de Novaya Rossiya qui a été élaboré par Poutine.
Qu'est-ce que c'est ce projet ?
C'est cette idée, au fond, d'une nouvelle Russie qui fait le choix, je dirais, du projet géopolitique plutôt que celui de son insertion pleine et entière dans la communauté internationale, qui s'adosse à une vision très eurasiatique, assez confuse, mais qui a des résonances très fortes auprès de l'opinion russe, avec ce thème aussi du Ruski Mir, du monde russe, c'est-à-dire cette idée sur laquelle les russophones doivent être défendus partout à travers le monde. Donc on est quand même, dans un climat très, très particulier, à mon avis assez peu étudié par nos dirigeants, qui ils n'ont pas alloué les ressources politiques et les ressources diplomatiques nécessaires. Et par conséquent, je pense qu'il faut rester très prudent, c'est-à-dire que Vladimir Poutine aujourd'hui en a encore sous la pédale, si j'ose dire. Et on peut multiplier les sanctions, aller plus loin, mais lui peut aussi réagir. Et donc à ce jeu-là, les choses peuvent se dégrader.
Avec ou sans Mistral, Isabelle Facon ?
Oui, je suis complètement d'accord sur le fait qu'on ne peut pas prédire les choses parce que la situation est tellement instable et tellement volatile qu'on ne peut pas éviter, complètement exclure un dérapage. En même temps, sur la perspective d'une éventuelle agression de la Russie contre les États baltes ou la Pologne, bon, ces pays font quand même partie de l'OTAN, donc j'espère que ça, c'est quand même un élément que les Russes prennent en considération. Et si j'en crois les hésitations que Poutine semble marquer quant à l'idée d'une intervention militaire en Ukraine de l'Est, alors que s'il en avait l'intention, il aurait pu en avoir les prétextes à de nombreuses reprises au cours des derniers mois. Alors, pourquoi ne veulent-ils pas le faire ? Parce que visiblement, il ne veut pas le faire. D'abord, je pense que son armée l'en dissuade pour des tas de raisons. D'autre part, je pense qu'il est convaincu, là aussi à tort ou à raison, que c'est à ça que Washington veut précisément pousser la Russie. Et puis enfin, il semble que l'opinion publique ne soit pas très favorable à ça. Donc il y a des gens dans le débat russe, dans les milieux politiques, qui disent qu'il faudrait y aller, qu'il faudrait intervenir au nom de la protection des Russes et des russophones, hein, puisque c'est quand même sous ce slogan que la réaction russe dans l'affaire ukrainienne s'est déroulée. Mais il me semble que la prudence, à ce sujet-là en tout cas, de Poutine sur une intervention militaire dans l'est de l'Ukraine est plutôt rassurant, si j'ose dire, avec beaucoup de guillemets, sur la perspective d'une agression contre les pays d'Europe centrale et orientale.
Thomas Gomard ?
Je crois qu'avant un hypothétique usage militaire du Mistral, s'il est vendu à la Russie, il y a déjà aujourd'hui un usage diplomatique extrêmement efficace de ce dossier-là par Moscou. Mmh. C'est-à-dire que le Mistral place Paris dans un embarras considérable. Et la question qu'il faut se poser, en fait, c'est dans quelle mesure le Mistral est aujourd'hui en train de paralyser la politique de la France par rapport à ce qui se passe en Ukraine, par rapport à la prise de leadership par Berlin. Mais ce qui est déjà réussi du côté russe, c'est de diviser extrêmement profondément les pays européens de l'OTAN. Je pense qu'entre Paris et Washington, c'est moins fort qu'on ne le dit, mais c'est très fort aujourd'hui entre Paris, Varsovie, entre Paris et les capitales baltes. Et ça, c'est déjà un succès de la diplomatie russe.
Vous ne nous avez pas dit alors si vous pensiez qu'il l'aurait fallu ne pas vendre
Je pose les termes dans la meilleure suivante. C'est-à-dire, je pense qu'il y a eu effectivement un habillage politique, c'est-à-dire que la raison principale est industrielle et qu'aujourd'hui, pour moi, l'argument principal est au fond un argument très égoïste national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne vend pas le Mistral, les conséquences sur le budget de la défense font que la France va un peu plus s'enfoncer militairement à un moment où, précisément compte tenu des différentes menaces, notamment celles qui viennent sur le front de l'Est, elle a besoin de reconstruire ou de fortifier son outil militaire. Mais si le Mistral ne se vend pas, c'est la dépense militaire française qui va directement en pâtir à un moment où elle est très affaiblie. Donc pour moi, c'est le principal argument. Je ne l'habille pas du tout de considérations sur le franco-russe, sur la souveraineté, mais c'est précisément pour la survie de ce qui reste de l'outil militaire français.
Alors il y a d'autres arguments qui sont avancés. Isabelle Lasserre, est-ce que la France, en tant que vendeur, peut avoir des états d'âme? La Russie est un état souverain. A priori, dans un contrat, le vendeur n'est pas partie prenante de la stratégie militaire de son client.
Non, moi, j'ai l'impression que le principal argument, c'est l'image que donnerait la France si elle annulait ce contrat d'armement pour les autres pays à qui elle veut vendre des armes. Et j'ai l'impression que c'est ça le principal argument. C'est-à-dire qu'en fait, la parole, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense qu'il ne fallait pas vendre ce Mistral, mais maintenant qu'on l'a vendu, il n'y a aucune bonne solution. La parole de la France est en jeu. On essaye de vendre du matériel militaire à des pays qui peuvent être en fait concernés par ce type de situation. Je pense par exemple à l'Inde. L'Inde est quand même en guerre larvée avec le Pakistan depuis des années. Si on vend du matériel militaire, les Indiens regardent de manière très très fine et très très proche la réaction de la position française. Parce que sur le niveau économique et financier, parce que c'est quand même un sujet ultra sensible, mais qui est discuté en permanence, qui pose un vrai problème, y compris, il est même en train de provoquer des frictions entre pays de l'Union européenne, puisque même l'Allemagne a fait des pas pour prendre des sanctions militaires. Mais il y a des pays qui proposent que le Mistral soit racheté par l'OTAN. Le Canada a aussi éventuellement proposé de racheter le Mistral. Et puis si c'est un tel problème pour l'Europe et pour les États-Unis, je n'imagine pas une seconde qu'une solution collective financière ne puisse pas être trouvée. Donc je pense que la solution économique, elle a des solutions. Par contre, la question économique a des solutions. Par contre, la question de la parole donnée et pour les prochaines ventes d'armement, c'est beaucoup plus compliqué.
Et puis ça en ferait des arguments pour Vladimir Poutine, Isabelle Facon, que de dire « regardez la malhonnêteté et la traîtrise de nos alliés soi-disant occidentaux ».
Oui, enfin ça, je crois que ce ne serait pas forcément l'argument le plus douloureux vu des autorités françaises. Mais c'est vrai que parce que c'est une vente particulièrement symbolique, on se sent particulièrement sur la sellette. Il y a quand même d'autres pays européens qui ont des intérêts avec la Russie qui pour l'instant n'ont pas été non plus remis en question, que ce soit les intérêts financiers russes qui se sont investis à Londres, etc. Mais c'est vrai que la portée hautement symbolique de cette vente met la France particulièrement sur la sellette. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles la France a quand même répondu très fortement présente sur la question de comment réassurer les alliés européens au sein de l'OTAN. Toutes les mesures qui sont prises pour montrer que l'OTAN est présente auprès des pays d'Europe centrale et orientale face à une Russie résurgente et pour eux menaçante. Et c'est aussi pour ça que la France essaye de se montrer assez active sur le plan diplomatique. On l'a vu en juin avec l'initiative diplomatique au moment des commémorations de la Seconde Guerre mondiale. On l'a revu récemment avec Angela Merkel, cet effort pour rapprocher les diplomaties russes et ukrainiennes. La France a essayé de montrer qu'elle jouait un rôle de premier plan. Donc je pense qu'il y a aussi un effort de ce point de vue-là pour, disons, améliorer l'image de la France par rapport à cette question du Mistral. Après, sur les solutions, le rachat, c'est pas si évident que ça, parce qu'il faut trouver quand même, enfin, sur quel financement. Je crois que tous les pays potentiellement qui pourraient être intéressés, pour l'instant, les caisses sont quand même plutôt généralement assez vides.
Qui pourrait être intéressé
On a parlé d'un rachat par l'UE, on a parlé d'un rachat par l'OTAN. Bon, et il y a aussi un autre problème.
Ça veut dire que le problème n'est pas si dramatique que ça. Hein.
Ça, je suis pas tout à fait certaine, mais c'est quand même une somme assez importante. Et d'un point de vue, on a parlé de rachat pour un euro symbolique, c'est quand même parfois, je pense que pour la France, ce n'est pas une solution satisfaisante.
Je rappelle que le contrat, c'est 1,2 milliard d'euros. Puis voilà. On laissera Thomas Gomard.
Oui, bien sûr. Mais par ailleurs, il y a aussi des spécificités de ce bâtiment qui est vendu, qui correspondent à des besoins russes et qui seraient pas forcément, qui font de ce bâtiment quelque chose qui ne serait pas forcément aisément utilisable par d'autres marines. Et ça, c'est aussi un point qui pèse dans les éventuelles solutions auxquelles on peut réfléchir pour aider la France sur cette question compliquée de la vente du Mistral.
Thomas Gomard.
Ouais, moi, je crois qu'il faut toujours insister sur le fait qu'aujourd'hui, une bonne part de notre politique étrangère est guidée, orientée par les ventes d'armes. Et pourquoi ? Parce que ces ventes d'armes deviennent de plus en plus indispensables au maintien à niveau de notre outil militaire. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement important à avoir en tête. C'est-à-dire qu'on a un outil militaire qui est en train de se dégrader et qui ne peut survivre que si ces industriels arrivent à exporter, en particulier le Rafale. en Inde. Donc, ce qui évidemment est au centre de toutes les préoccupations, c'est la réaction de l'Inde, comme le disait Isabelle Lasserre, à une éventuelle annulation du contrat. Bon. Et le deuxième élément, je pense effectivement que la piste du rachat mérite d'être explorée, parce que c'est une manière aussi de tester la sincérité de nos alliés en la matière, qui aussi peuvent avoir beau jeu de fournir des systèmes d'armes le moment venu à la Russie ou à des pays comparables. Il y a toute la problématique de l'embargo sur les ventes d'armes à la Chine, etc. Bon, donc si vous voulez, je pense que cette piste mérite d'être explorée, parce qu'en même temps, il y a un contre-argument qui est très souvent utilisé, par exemple en Pologne, en disant ah, mais si vous vendez le Mistral, on vous prendra pas d'autres systèmes d'armes. Alors même que des pays comme la Pologne ont toujours fait des choix d'achat de leur matériel plutôt du côté des Américains que du côté des Français. Donc si vous voulez, c'est un peu, il y a un peu balle des hypocrites dans cette affaire, et je pense que la piste du rachat permettrait de diminuer cette hypocrisie.
Ceux qui critiquent la tiédeur de la France à revenir sur ses engagements, tout cela, est-ce qu'ils sont au clair dans leurs relations avec la Russie ? Isabelle Lasserre, je pense à la City de Londres qui est souvent accusée d'accueillir l'argent des oligarques russes. En tout cas, voilà, est-ce que tous ceux qui critiquent la France, Allemagne, Grande-Bretagne et autres, sont eux au clair et exempts de reproches ?
Personne n'est totalement clean dans cette histoire. Les Britanniques n'ont absolument pas envie de se débarrasser de l'argent des oligarques russes qui fructifient à la City, même si une partie de ces oligarques sont des exilés politiques, entre guillemets, mais pas forcément en accord avec le programme de Vladimir Poutine, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est ce que reproche Paris à la City, de ne pas faire cet effort-là. Quant à l'Allemagne, elle est liée par le gaz. Voilà. Le problème, c'est que là, on a un bateau qui a des implications stratégiques. C'est pas forcément le cas de l'argent de la City de Londres. On a un bateau qui, si la situation se détériore, on peut se retrouver dans la situation dans laquelle il attaque un de nos alliés de l'OTAN. Donc l'argent des oligarques ne va pas attaquer un allié. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Par ailleurs, l'Allemagne a récemment quand même vraiment commencé à changer sa position vis-à-vis de la Russie. Elle qui était quand même la moins claire vis-à-vis du Kremlin, en annulant un projet d'équipement militaire qu'elle devait réaliser, en durcissant son ton et en essayant d'entraîner à sa suite la France.
Isabelle Facon ?
Oui, mais personne n'est au clair, effectivement. C'est-à-dire qu'on voit bien que les sanctions pose la question de la division au sein des Européens. Et ça, Poutine, à mon avis, l'a bien remarqué. Et comme l'a dit Thomas Gomard tout à l'heure, il appuie bien sûr sur ces divisions. On l'a vu à travers la dernière vague de sanctions. Tout le monde a dit c'est bien parce que ça marque un grand coup. Mais en même temps, si on regarde bien, ces sanctions, elles préservent quand même beaucoup les intérêts déjà existants. Alors, elles compromettent certainement pas mal de projets d'investissement du côté européen. Mais beaucoup des contrats, que ce soit dans le domaine militaire ou dans le domaine de l'énergie, les contrats existants sont préservés. On voit un certain nombre de projets dans le domaine de l'énergie qui sont en ce moment même en train d'être lancés avec la Norvège, notamment entre Rosneft et Statoil. Donc il y a ce problème des sanctions qui sont explosives. Alors c'est vrai qu'on a eu tendance à jouer un petit peu au ping-pong en disant oui, mais vous avez ces intérêts-là, etc. Et ça, c'est pas forcément très bon parce que vis-à-vis de Poutine, c'est envoyé le signal d'une grande division entre les pays de l'Union européenne, les pays membres de l'OTAN. Et ça, vraiment, je pense que c'est un souci. Un deuxième élément, c'est que les milieux économiques dans tous les pays, y compris en Allemagne, un petit peu partout en Europe, se mobilisent très fortement contre les sanctions. Et cela aussi, je pense que les pouvoirs, les autorités politiques de tous les pays entendent aussi ces appels. Et ça aussi, je pense que Poutine l'a remarqué.
Thomas Gomard.
Oui, moi j'aurais une lecture un petit peu différente. Je pense que les divisions entre Européens existent. Elles sont peut-être moins profondes qu'en 2008, en réalité. Il y a un front commun. En revanche, je vois beaucoup plus de divisions entre Européens et Américains. Et effectivement, quand on analyse les sanctions prises par les États-Unis et celles prises par l'Union européenne, à l'initiative, je le précise parce que c'est important pour ce qui va se passer dans les semaines à venir, d'une commission sortante, la commission Barroso, qui est très allante sur les sanctions et qui ne s'est pas forcément, mise en valeur par sa clairvoyance sur la Russie et sur l'Ukraine au cours des cinq dernières années. Donc la commission Juncker va devoir aussi peut-être faire preuve de plus de retenue. Mais aux États-Unis, vous avez très clairement un courant beaucoup plus hostile à la Russie et qui considère effectivement qu'il faut non seulement casser la Russie économiquement, mais en même temps gêner les Européens. Et ça s'observe en particulier dans le domaine énergétique parce que fondamentalement, et c'est une très vieille histoire qui remonte au début des années 80, Européens et Américains, en termes d'approvisionnement énergétique, n'ont pas d'intérêt convergent vis-à-vis de la Russie. Les Européens ont un système aujourd'hui extrêmement interdépendant avec la Russie, qui évolue d'ailleurs très, très sensiblement depuis 2009. C'est-à-dire que leur mix est en train de s'améliorer. Mais fondamentalement, la Russie reste leur premier exportateur pour le pétrole, pour le gaz, pour le charbon. Donc, ce qui n'est évidemment pas le cas des États-Unis, qui sont aujourd'hui dans une situation où ils veulent exporter leur énergie sur le marché européen. Donc cette affaire des sanctions, si vous voulez, pour moi, traduit beaucoup plus le débat transatlantique que nous devons avoir sur la Russie avec nos alliés américains qu'un débat strictement entre Européens.
Mais il serait facile pour Vladimir Poutine de rappeler que les États-Unis ont violé le droit international en intervenant en Irak, par exemple, et que le débat ne se pose pas aujourd'hui de savoir s'il faut ou pas continuer à lui livrer des armes. En tout cas, on trouve toujours, Vladimir Poutine trouvera toujours des arguments, Isabelle Lasserre.
Oui, il trouve
c'est aussi un débat moral.
Oui, il trouve des arguments partout. Et là, en fait, l'argument principal, en plus, aujourd'hui, c'est quand même aussi la situation internationale. C'est-à-dire qu'on parlait du pivot tout à l'heure, le pivot américain en Asie au Pacifique, et dans le Pacifique, qui est en train de rêver, enfin, et du pivot russe éventuellement vers l'Asie. Mais le pivot américain, est-ce qu'il va vraiment avoir lieu? Parce que quand on voit dans quel état est le Moyen-Orient aujourd'hui et de quelle manière les États-Unis sont complètement rattrapés, y compris par la guerre en Irak, qui l'eût cru il y a deux mois quand même, comment auront-ils l'énergie, les forces nécessaires, l'économie suffisamment forte pour engager cet immense pivot vers l'Asie? La réalité a l'air de les rattraper complètement. Donc c'est, et voilà. Et en fait, je pense que là où Poutine joue de ça en ce moment, c'est que les États-Unis et l'Europe, à nouveau, ont les yeux complètement rivés sur la Syrie, l'Irak, le Proche-Orient. Et il y a déjà tellement de pays en Europe qui espèrent que les choses vont en fait se calmer toutes seules. C'est la politique française vis-à-vis du Mistral. Hein. C'était la politique de l'autruche. C'est-à-dire, on verra après. On verra après. On a toujours espéré que les choses se calmeraient d'ici là. Elles se calment pas, mais par contre, comme elles se dégravent. Comme elle se dégrade gravement ailleurs, peut-être que Poutine a une opportunité à saisir. Là.
Alors Isabelle Facon, si la France ne vend pas le Mistral à la Russie et revient sur ses engagements, elle se ferme aussi la porte à tout futur contrat avec la Russie, et notamment son immense programme de réarmement naval, qui est un programme qui se chiffre à des milliards de dollars.
Alors ça, c'est difficile à dire. D'abord, le premier, a priori, va être vendu, enfin, c'est peut-être imprudente, mais j'ai l'impression que pour l'instant ça va plutôt...
Vendu, il l'est déjà,
livré, disons. Après, je pense que les opportunités, elles s'étaient déjà largement refermées, y compris avant la crise ukrainienne, c'est-à-dire que il y a eu un changement, d'abord il y a eu le retour de Vladimir Poutine, qui était apparemment moins favorable que l'équipe de Medvedev à l'idée d'acheter des équipements auprès des Occidentaux. En tout cas, il était plus sensible que Medvedev aux arguments de l'industrie qui est assez opposée, enfin en tout cas une partie de l'industrie russe est assez opposée à ces achats. Et par ailleurs, il y a eu un changement au niveau de la tête du ministère de la Défense, et le ministre Serdioukov, l'ancien ministre, lui était vraiment très favorable à ça. Et depuis, on dit même, et je pense que c'est une hypothèse tout à fait plausible, qu'une des raisons pour lesquelles il a été limogé au-delà de l'affaire de corruption, c'est que justement, il voulait consacrer une partie de ce gâteau très important de 600 milliards de dollars à des achats à l'étranger plutôt que laisser cet argent aller dans les bonnes, dans différentes poches, y compris les mauvaises poches, puisqu'on sait qu'en Russie, la corruption dans le système de l'armement est quand même extrêmement importante. Donc, il y aura peut-être moins de coopération. Il y avait quand même un certain nombre de coopérations franco-russes dans le domaine de l'industrie d'armement. Donc, elles vont peut-être se ralentir. Mais je pense que de toute façon, les opportunités étaient déjà considérablement réduites par ce changement de portage à Moscou sur le bien fondé d'acheter beaucoup de matériel à l'étranger.
Et si ce n'est pas la France qui le livre, ce sera la Corée du Sud, Thomas Goma ?
Bah, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que là aussi, il y a des, effets de planification. Donc oui, il y a d'autres pays capables de produire, pas forcément avec la même sophistication. Hein. Des pays comme l'Espagne ou les Pays-Bas s'étaient aussi montrés intéressés. Moi, je crois, si vous voulez, que les semaines qui viennent vont être très compliquées pour l'Élysée sur cette question-là. C'est-à-dire qu'au fond, François Hollande peut tout à fait décider de ne pas exporter. Il y a des précédents. Hein. Le général de Gaulle, en 67, avait mis son veto à l'exportation de Mirage 5 vers Israël. Donc, il y a des précédents qui montrent que c'est possible. Mais en même temps, compte tenu, et je pense que c'est pour moi la principale clé d'explication, compte tenu de l'état aujourd'hui de la dépense publique, de l'outil militaire, les enjeux industriels hexagonaux, à mon sens, primeront.
Merci beaucoup Thomas Gomard. Donc je rappelle que le premier Mistral, le Vladivostok, devrait être livré en octobre et c'est pour le Sébastopol que Paris réserve encore sa décision. Merci donc beaucoup à vous trois, Thomas Gomard, Isabelle Facon, Isabelle Lasserre, d'avoir été avec nous ce soir. Nous mettons vos articles, vos travaux en lien sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. Vous pouvez toujours, je m'adresse aux auditeurs cette fois, y laisser vos éventuels commentaires. Merci d'avoir suivi cette émission. Demain, nous parlerons des électro-hypersensibles que peuvent les politiques publiques face à ceux qui disent souffrir des ondes de nos portables, antennes relais, Wi-Fi et qui réclament l'instauration d'une zone blanche à l'occasion d'un grand rassemblement de ces personnes. La semaine prochaine, à Saint-Julien-en-Beauchesne dans les Hautes-Alpes, nous en débattrons avec nos trois invités. À demain, 18h15.